Les secrets de la princesse de Cadignan, suite. Cette petite guerre amicale durait depuis quelques mois entre Daniel et ses amis, quand Madame d'Espard pria Rastignac et Blondet de déterminer d'Arthez à venir dîner chez elle, en leur disant que la princesse de Cadignan avait un excessif désir de voir cet homme célèbre. Ces sortes de curiosités sont pour certaines femmes ce qu'est la lanterne magique pour les enfants, un plaisir pour les yeux, assez pauvre d'ailleurs et plein de désenchantements. Plus un homme d'esprit excite des sentiments à distance, moins il y répondra de près. Plus il a été rêvé brillant, plus terne il sera. Sous ce rapport, la curiosité déçue va souvent jusqu'à l'injustice. Ni Blondet ni Rastignac ne pouvaient tromper d'Arthez, mais ils lui dirent en riant qu'il s'offrait pour lui la plus séduisante occasion de se décrasser le cœur et de connaître les suprêmes délices que donnait l'amour d'une grande dame parisienne. La princesse était positivement éprise de lui. Il n'avait rien à craindre. Il avait tout à gagner dans cette entrevue. Il lui serait impossible de descendre du piédestal où Madame de Cadignan l'avait élevé. Blondet ni Rastignac ne virent aucun inconvénient à prêter cet amour à la belle princesse. Elle pouvait porter cette calomnie, elle dont le passé donnait lieu à tant d'anecdotes. L'un et l'autre, ils se mirent à raconter à d'Arthez les aventures de la duchesse de Maufrigneuse. Ses premières légèretés avec de Marsay, ses secondes inconséquences avec d'Aljuda Pinto, qu'elle avait diverti de sa femme en vengeant ainsi Madame de Beauséant, sa troisième liaison avec le jeune d'Esgrignon, qui l'avait accompagnée en Italie et s'était horriblement compromis pour elle. Puis combien elle avait été malheureuse avec un célèbre ambassadeur, heureuse avec un général russe, comment elle avait été l'égérie de deux ministres des affaires étrangères, etc., etc. D'Arthez leur dit qu'il en avait su plus qu'il ne pouvait lui en dire sur elle par leur pauvre ami Michel Chrétien, qu'il avait adoré et, en secret pendant 4 années et avait failli en devenir fou. « J'ai souvent accompagné, dit Daniel, mon ami aux Italiens à l'opéra. Oh, le malheureux courait avec moi dans les rues en allant aussi vite que les chevaux et admirant la princesse à travers les glaces de son coupé. C'est à cet amour que le prince de Cadignan a dû la vie. Michel a empêché qu'un gamin ne le tuât. Eh bien, vous aurez un thème tout prêt, dit en souriant Blondet. Voilà bien la femme qu'il vous faut. Elle ne sera cruelle que par délicatesse et vous initiera très gracieusement au mystère de l'élégance. Mais prenez garde, elle a dévoré bien des fortunes. La belle Diane est une de ces dissipatrices qui ne coûte pas un centime et pour laquelle on dépense des millions. Donnez-vous corps et âme, mais gardez à la main votre monnaie. Comme le vieux du déluge de Gironet. Après cette conversation, la princesse avait la profondeur d'un abîme, la grâce d'une reine, la corruption des diplomates, le mystère d'une initiation, le danger d'une sirène. Ces deux hommes d'esprit, incapables de prévoir le dénouement de cette plaisanterie, avaient fini par faire de Diane d'Uxelles la plus monstrueuse parisienne, la plus habile coquette, la plus enivrante courtisane du monde. Quoiqu'ils eussent raison, la femme qu'ils traitaient si légèrement était sainte et sacrée pour d'Arthez, dont la curiosité n'avait pas besoin d'être excitée. Il consentit à venir de prime abord, et les deux amis ne voulaient pas autre chose de lui. Madame d'Espard alla voir la princesse dès qu'elle eut la réponse. « Ma chère, vous sentez-vous en beauté, en coquetterie ?» lui dit-elle. Venez dans quelques jours dîner chez moi. Je vous servirai d'artaise. Notre homme de génie est de la nature la plus sauvage. Il craint les femmes et n'a jamais aimé. Faites votre thème là-dessus. Il est excessivement spirituel. Oh, d'une simplicité qui vous abuse en notant toute défiance. Sa pénétration, toute rétrospective, agit après coup et dérange tous les calculs. Vous l'avez surpris aujourd'hui et demain il n'est plus la dupe de rien. Ah, dit la princesse, si je n'avais que 30 ans, je m'amuserais bien. Ce qui m'a manqué jusqu'à présent, c'était un homme d'esprit à jouer. Je n'ai eu que des partenaires et jamais d'adversaires. L'amour est un jeu au lieu d'être un combat. Chère princesse, avouez que je suis bien généreuse, car enfin, charité bien ordonnée. Les deux femmes se regardèrent en riant et se prirent les mains, en se les serrant avec amitié. Certes, elles avaient toutes deux, l'une à l'autre, des secrets importants, et n'en étaient sans doute ni à un homme près, ni à un service à rendre. Car pour faire les amitiés sincères et durables entre femmes, il faut qu'elles aient été cimentées par de petits crimes. Quand deux amis peuvent se tuer réciproquement et se voir d'un poignard empoisonné dans la main, elles offrent le spectacle touchant d'une harmonie qui ne se trouve qu'un moment, où l'une d'elles a, par mégarde, lâché son arme. Donc, à 8 jours de là, il y eut chez la marquise une de ces soirées dites de petits jours, réservées pour les intimes auxquelles personne ne vient que sur une invitation verbale, et cependant pendant lesquelles la porte est fermée. Cette soirée était donnée pour 5 personnes: Émile Blondet, Madame de Montcornet, Daniel d'Arthez, Rastignac et la princesse de Cadignan. En comptant la maîtresse de la maison, il se trouvait autant d'hommes que de femmes. Jamais le hasard ne s'était permis de préparation plus savante que pour la rencontre de d'Arthez et de Madame de Cadignan. La princesse passe encore aujourd'hui pour une des plus fortes sur la toilette, qui pour les femmes est le premier des arts. Elle avait mis une robe de velours bleu à grandes manches blanches traînantes, à corsage apparent, une de ces guimpes en tulle légèrement froncées et bordées de bleu, montant à 4 doigts de son cou et couvrant les épaules comme on le voit dans quelques portraits de Raphaël. Sa femme de chambre l'avait coiffée de quelques bruyères blanches habilement posées dans ses cascades de cheveux blonds, l'une des beautés auxquelles elle devait sa célébrité. Certes, Diane ne paraissait pas avoir 25 ans. 4 années de solitude et de repos avaient rendu de la vigueur à son teint. N'y a-t-il pas d'ailleurs des moments où le désir de plaire donne un surcroît de beauté aux femmes? La volonté n'est pas sans influence sur les variations du visage. Si les émotions violentes ont le pouvoir de jaunir les onds blancs chez les gens d'un tempérament sanguin, mélancolique, de verdir les figures lymphatiques, ne faut-il pas accorder au désir, à la joie, à l'espérance, la faculté d'éclaircir le teint, de dorer le regard d'un vif éclat, d'animer la beauté par un jour piquant comme celui d'une jolie matinée? La blancheur si célèbre de la princesse avait pris une teinte mûrie qui lui prêtait un air auguste. En ce moment de sa vie, frappée par tant de retours sur elle-même et par des pensées sérieuses, son front, rêveur et sublime, s'accordait admirablement avec son regard bleu, lent et majestueux. Il était impossible au physionomiste le plus habile d'imaginer des calculs et de la décision sous cette inouïe délicatesse de traits. Il est des visages de femmes qui trompent la science et déroutent l'observation par leur calme et par leur finesse. Il faudrait pouvoir les examiner quand les passions parlent, ce qui est difficile, ou quand elles ont parlé, ce qui ne sert plus à rien. Alors la femme est vieille et ne dissimule plus. La princesse est une de ces femmes impénétrables. Elle peut se faire ce qu'elle veut. Être folâtre, enfant, innocente, indésespérée, ou fine, sérieuse et profonde, à donner de l'inquiétude. Elle vint chez la marquise avec l'intention d'être une femme douce et simple, à qui la vie était connue par ses déceptions seulement. Une femme pleine d'âme et calomniée, mais résignée, enfin, un ange meurtri. Elle arriva de bonne heure afin de se trouver posée sur la causeuse, au coin du feu, près de Madame d'Espard, comme elle voulait être vue, dans une de ces attitudes où la science est cachée sous un naturel exquis, une de ces poses étudiées et cherchées, qui mettent en relief cette belle figure ligne serpentine qui prend au pied et remonte gracieusement jusqu'à la hanche et se continue par d'admirables rondeurs jusqu'aux épaules, en offrant au regard tout le profil du corps. Une femme nue serait moins dangereuse que ne l'est une jupe si savamment étalée, qui couvre tout et met tout en lumière à la fois. Par un raffinement que bien des femmes n'eurent pas inventé, Diane, à la grande stupéfaction de la marquise, s'était faite accompagner du duc de Maufrigneuse. Après un moment de réflexion, Madame d'Espard serra la main de la princesse d'un air d'intelligence. « Je vous comprends. En faisant accepter à d'Arthez toutes les difficultés du premier coup, vous ne les trouverez pas avec plus tard. » La comtesse de Montcornet vint avec Blondet. Rastignac amena d'Arthez. La princesse ne fit à l'homme célèbre aucun de ces compliments dont l'accablaient les gens vulgaires. Mais elle eut de ces prévenances empreintes de grâce et de respect qui devaient être le dernier terme de ses concessions. Elle était sans doute ainsi avec le roi de France, avec les princes. Elle parut heureuse de voir ce grand homme et contente de l'avoir cherché. Les personnes pleines de goût comme la princesse se distinguent surtout par leur manière d'écouter, par une affabilité sans moquerie, qui est à la politesse que la pratique est à la vertu. Quand l'homme célèbre parlait, elle avait une pose attentive, mille fois plus flatteuse que les compliments les mieux assaisonnés. Cette présentation mutuelle se fit sans emphase et avec convenance par la marquise. À dîner, d'Arthez fut placé près de la princesse, qui, loin d'imiter les exagérations de diète que se permettent les minaudières, mangea de fort bon appétit et tint à honneur de se montrer femme naturelle, sans aucune façon étrange. Entre un service et l'autre, elle profita d'un moment où la conversation générale s'engageait pour prendre d'Arthez à partie. « Le secret du plaisir que je me suis procuré en me trouvant auprès de vous, dit-elle, est dans le désir d'apprendre quelque chose d'un malheureux ami à vous, monsieur, mort pour une autre cause que la nôtre, à qui j'ai eu de grandes obligations, sans avoir pu les reconnaître et m'acquitter. Le prince de Cadignan a partagé mes regrets. J'ai su que vous étiez l'un des meilleurs amis de ce pauvre garçon. Votre mutuelle amitié, pure, inaltérée, était un titre auprès de moi. Vous ne trouverez donc pas extraordinaire que j'ai voulu savoir tout ce que vous pouviez me dire de cet être qui vous est si cher. Si je suis attaché à la famille exilée et tenu d'avoir des opinions monarchiques, je ne suis pas du nombre de ceux qui croient qu'il est impossible d'être à la fois républicain et noble de cœur. La monarchie et la république sont les deux seules formes de gouvernement qui n'étouffent pas les beaux sentiments. « Michel Chrestien était un ange, madame, répondit Daniel d'une voix émue. Je ne sais pas, dans les héros de l'Antiquité, d'homme qui lui soit supérieur. Gardez-vous de le prendre pour un de ces républicains idées étroites qui voudraient recommencer la convention et les gentillesses du comité de salut public. Non. Michel rêvait la fédération suisse appliquée à toute l'Europe. Avouons-le entre nous. Après le magnifique gouvernement d'un seul, qui, je crois, convient plus particulièrement à notre pays, le système de Michel est la suppression de la guerre dans le vieux monde et sa reconstitution sur des bases autres que celles de la conquête qu'il avait jadis féodalisée. Les républicains étaient à ce titre les gens les plus voisins de son idée. Voilà pourquoi il leur a prêté son bras en juillet et à Saint-Méry. Et quoique entièrement divisés d'opinion, nous sommes restés étroitement unis. Mais c'est le plus bel éloge de vos deux caractères, dit timidement Madame de Chatignan. Dans les 4 dernières années de sa vie, reprit Daniel, il ne fit qu'à moi seul la confidence de son amour pour vous. Et cette confidence resserra les nœuds déjà bien forts de notre amitié fraternelle. Lui seul, madame, vous aura aimé comme vous devriez l'être. Combien de fois n'ai-je pas reçu la pluie en accompagnant votre voiture jusque chez vous, en luttant de vitesse avec vos chevaux, pour nous maintenir au même point sur une ligne parallèle afin de vous voir, de vous admirer. Mais, monsieur, dit la princesse, je vais être tenue à vous indemniser. Pourquoi Michel n'est-il pas là ? Répondit Daniel d'un accent plein de mélancolie. Mais il ne m'aurait peut-être pas aimé longtemps, dit la princesse en remuant la tête par un geste plein de tristesse. Les républicains sont encore plus absolus dans leurs idées que nous autres absolutistes qui prêchons par l'indulgence. Il avait sans doute rêvé parfaite. Il aurait été cruellement détrompé. Nous sommes poursuivis, nous autres femmes, par autant de calomnies que vous avez à supporter dans la vie littéraire, et nous ne pouvons nous défendre ni par la gloire ni par nos œuvres. On ne nous croit pas ce que nous sommes, mais ce que l'on nous fait. On lui aurait bientôt caché la femme inconnue qui est en moi sous le faux portrait de la femme imaginaire, qui est la vraie pour le monde. Il m'aurait cru indigne des sentiments nobles qu'il me portait, incapable de le comprendre. Ici, la princesse hocha la tête en agitant ses belles boucles blondes pleines de bruyère, par un geste sublime. Ce qu'elle exprimait de doute désolant, de misère cachée, est indicible. Daniel comprit tout et regarda la princesse avec une vive émotion. Cependant, le jour où je le revis, longtemps après la révolte de juillet, reprit-elle, je fus sur le point de succomber au désir que j'avais de lui prendre la main, de la lui serrer devant tout le monde, sous le péristyle du théâtre italien, en lui donnant mon bouquet. Et j'ai pensé que ce témoignage de reconnaissance serait mal interprété comme tant d'autres choses nobles qui passent aujourd'hui pour les folies de Madame de Maufrigneuse, et que je ne pourrais jamais expliquer, car il n'y a que mon fils et Dieu qui me connaîtront jamais. Ces paroles, soufflées à l'oreille de l'écouteur, de manière à être dérobées à la connaissance des convives, et avec un accent digne de la plus haute comédienne, devaient aller au cœur. Aussi atteignirent-elles à celui de d'Arthez. Il s'agissait pour l'écrivain célèbre. Cette femme cherchait à réhabiliter en faveur d'un mort. Elle avait pu être calomniée, et elle voulait savoir si rien ne l'avait ternie aux yeux de celui qu'elle aimait. Était-il mort avec toutes ses illusions ? Michel, répondit d'Arthez, était un de ces hommes qui aiment d'une manière absolue, et qui, s'ils choisissent mal, peuvent en souffrir sans jamais renoncer à celle qu'ils ont élue. Étais-je donc aimé ainsi ? s'écria-t-elle d'un air de béatitude exaltée. « Oui, madame. J'ai donc fait son bonheur pendant 4 ans. Ah, une femme n'apprend jamais une pareille chose sans éprouver une orgueilleuse satisfaction, dit-elle en tournant son doux et noble visage vers d'Arthez par un mouvement plein de confusion pudique. Une des plus savantes manœuvres de ces comédiennes est de voiler leur manière quand les mots sont trop excessifs et de faire parler les yeux quand le discours est restreint. Ces habiles dissonances glissées dans la musique de leur amour faux ou vrai produisent d'invincibles séductions. « N'est-ce pas ?» reprit-elle en abaissant encore la voix et après s'être assurée d'avoir produit de l'effet, « n'est-ce pas avoir accompli sa destinée que de rendre heureux et sans crime un grand homme ?»« Mais ne vous l'a-t-il pas écrit ?»« Oui, mais je veux en être bien sûr, car croyez-moi, monsieur, en me mettant si haut, il ne s'est pas trompé. » Les femmes savent donner à leurs paroles une sainteté particulière. Elles leur communiquent je ne sais quoi de vibrant qui étend le sang des idées et leur prête de la profondeur. Si plus tard, leur auditeur charmé ne se rend pas compte de ce qu'elles ont dit, le but a été complètement atteint, ce qui est le propre de l'éloquence. La princesse aurait en ce moment porté le diadème de la France. Son front n'eût pas été plus imposant qu'il l'était sous le beau diadème de ses cheveux élevés en nattes, comme une tour et armée de ses jolies bruyères. Cette femme semblait marcher sur les flots de la calomnie, comme le sauveur sur les vagues du lac de Tibériade, enveloppée dans le suaire de son amour, comme un ange dans ses limbes. Il n'y avait rien qui sentît ni la nécessité d'être ainsi, ni le désir de paraître grande ou aimante. Ce fut simple et calme. Un homme vivant n'aurait jamais pu rendre à la princesse les services qu'elle obtenait de sa mort. D'Arthez, travailleur solitaire, à qui la pratique du monde était étrangère et que l'étude avait enveloppé de ses voiles protecteurs, fut la dupe de cet accent et de ses paroles. Il fut sous le charme de ses exquises manières. Il admira cette beauté parfaite, mûrie par le malheur, reposée dans la retraite. Il adora la réunion, si rare, d'un esprit fin et d'une belle âme. Enfin, il désira recueillir la succession de Michel Chrestien. Le commencement de cette passion fut, comme chez la plupart des profonds penseurs, une idée. En voyant la princesse, en étudiant la forme de sa tête, la disposition de ses traits si doux, sa taille, son pied, ses mains si finement modelées, de plus près qu'il ne l'avait fait en accompagnant son ami dans ses folles courses, il remarqua le surprenant phénomène de la seconde vue morale que l'homme exalté par l'amour trouve en lui-même. Avec quelle lucidité Michel Chrestien n'avait-il pas lu dans ce cœur, dans cette âme, éclairée par les feux de l'amour? Le fédéraliste avait donc été deviné, lui aussi. Il eût sans doute été heureux. Ainsi la princesse avait aux yeux de d'Arthez un grand charme. Elle était entourée d'une auréole de poésie. Pendant le dîner, l'écrivain se rappela les confidences désespérées du républicain et ses espérances quand il s'était cru aimé. Les beaux poèmes que dicte un sentiment vrai avaient été chantés pour lui seul à propos de cette femme. Sans le savoir, Daniel allait profiter de ses préparations dues au hasard. Il est rare qu'un homme passe sans remords de l'état de confident à celui de rival, et d'Arthez le pouvait alors sans crime. En un moment, il aperçut les énormes différences qui existe entre les femmes comme il faut, ces fleurs du grand monde, et les femmes vulgaires, qui ne connaissent cependant encore que sur un échantillon. Il fut donc pris par les coins les plus accessibles, les plus tendus de son âme et de son génie. Poussé par sa naïveté, par l'impétuosité de ses idées à s'emparer de cette femme, il se trouva retenu par le monde et par la barrière que les manières, disons le mot, que la majesté de la princesse mettait entre elle et lui. Aussi, pour cet homme habitué à ne pas respecter celle qu'il aimait, y eut-il là je ne sais quoi d'irritant, un appât d'autant plus puissant qu'il fut forcé de le dévorer et d'en garder les atteintes sans se trahir. La conversation, qui demeura sur Michel Chrestien jusqu'au dessert, fut un admirable prétexte à Daniel, comme à la princesse, de parler à voix basse. Amour, sympathie, divination, à elle de se poser en femme méconnue, calomniée, à lui de se fourrer les pieds dans les souliers du républicain mort. Peut-être cet homme d'ingénuité se surprit-il à moins regretter son ami. Au moment où les merveilles du dessert reluisirent sur la table, au feu des candélabres, à l'abri des bouquets de fleurs nouvelles naturelles qui séparaient les convives par une haie brillante, richement colorée de fruits et de sucreries, la princesse plut à clore cette suite de confidences par un mot délicieux, accompagné d'un de ses regards, à l'aide desquels les femmes blondes paraissent être brunes, et dans lequel elle exprima finement cette idée que Daniel et Michel étaient deux âmes jumelles. D'Arthez se rejeta dès lors dans la conversation générale en y portant une joie d'enfant et un petit air fait digne d'un écolier. La princesse prit de la façon la plus simple le bras de D'Arthez pour revenir au petit salon de la marquise. En traversant le grand salon, elle alla lentement. Et quand elle fut séparée de la marquise, à qui Blondet donnait le bras, par un intervalle assez considérable, elle l'arrêta D'Arthez. « Oh, je ne veux pas être inaccessible pour l'ami de ce pauvre républicain, lui dit-elle. Et quoique je ne sois faite une loi de ne recevoir personne, vous seul au monde pourrez entrer chez moi. Oh, ne croyez pas que ce soit une faveur. La faveur n'existe jamais que pour des étrangers, et il me semble que nous sommes de vieux amis. Je veux voir en vous le frère de Michel. » D'Arthez ne put que presser le bras de la princesse. Il ne trouva rien à répondre. Quand le café fut servi, Diane de Cadignan s'enveloppa par un coquet mouvement dans un grand châle et se leva. Blondet et Rastignac étaient des hommes de trop haute politique et trop habitués au monde pour faire la moindre exclamation bourgeoise et vouloir retenir la princesse. Mais Madame d'Espard fit rasseoir son amie en la prenant par la main et lui disant à l'oreille « Attendez que les gens aient dîné, la voiture n'est pas prête. » Et elle fit un signe au valet de chambre qui remportait le plateau du café. Madame de Montcornet devina que la princesse et Madame d'Espard avaient un mot à se dire et prit avec elle D'Arthez. Rastignac et Blondet, qu'elle amusa par une de ces folles attaques paradoxales auxquelles s'entendent à merveille les Parisiennes. « Eh bien, dit la marquise à Diane, comment le trouvez-vous ? Mais c'est un adorable enfant, il sort du maillot. Oh, vraiment, cette fois encore, il y aura comme toujours un triomphe sans lutte. » « C'est désespérant, dit Madame d'Espard, mais il y a de la ressource. Mais comment ? laissez-moi devenir votre rival. Comme vous voudrez, répondit la princesse. J'ai pris mon parti. Le génie est une manière d'être du cerveau. Je ne sais pas ce qui gagne le cœur. Nous en causerons plus tard. En entendant ce dernier mot qui fut impénétrable, Madame d'Espard se jeta dans la conversation générale et ne parut ni blessée du « comme vous voudrez », ni curieux de savoir à quoi cette entrevue aboutirait. La princesse resta pendant une heure environ assise sur la causeuse auprès du feu, dans l'attitude pleine de nonchalance et d'abandon que Guérin a donné à Didon, écoutant avec l'attention d'une personne absorbée et regardant Daniel par moments sans déguiser une admiration qui ne sortait pas d'ailleurs des bornes. Elle s'esquiva quand la voiture fut avancée, après avoir échangé un serrement de main avec la marquise et une inclination de tête avec Madame de Montcornet. La soirée s'acheva sans qu'il fût question de la princesse. On profita de l'espèce d'exaltation dans laquelle était d'Arthez, qui dévoya les trésors de son esprit. Certes, il avait dans Rastignac et dans Blondet deux acolytes de première force, comme finesse d'esprit et comme portée d'intelligence. Quant aux deux femmes, elles sont depuis longtemps comptées parmi les plus spirituelles de la bonne société. Ce fut donc une halte dans une oasis, un bonheur rare et bien apprécié pour ces personnages habituellement en proie au garde-à-vous du monde, des salons et de la politique. Il est des êtres qui ont le privilège d'être parmi les hommes comme des astres bienfaisants, dont la lumière éclaire les esprits, dont les rayons échauffent les cœurs. D'Arthez était d'une de ces belles âmes. Un écrivain qui s'élève à la hauteur où il est, s'habitue à tout penser et oublie quelquefois dans le monde qu'il ne faut pas tout dire. Il est impossible d'avoir la retenue des gens qui vivent continuellement. Mais comme ces écarts sont presque toujours marqués d'un cachet d'originalité, personne ne s'en plaint. Cette saveur si rare dans les talents, cette jeunesse pleine de simplesse qui rendent d'Arthez si noblement original, firent de cette soirée une délicieuse chose. Il sortit avec le baron de Rastignac qui, en reconduisant chez lui, parla naturellement de la princesse en lui demandant comment il la trouvait. « Michel avait raison de l'aimer, répondit d'Arthez. C'est une femme extraordinaire. » « Bien extraordinaire, répliqua railleusement Rastignac. À votre accent, je vois que vous l'aimez déjà. Vous serez chez elle avant 3 jours. Et je suis un trop vieil habitué de Paris pour ne pas savoir ce qui va se passer entre vous. Eh bien, mon cher Daniel, je vous supplie de ne pas vous laisser aller à la moindre confusion d'intérêt. Aimez la princesse, si vous vous sentez de l'amour pour elle au cœur, mais songez à votre fortune. Elle n'a jamais pris ni demandé 2 liards à qui que ce soit. Elle est bien trop d'Uxelles et Cadignac pour cela, mais à ma connaissance, outre sa fortune à laquelle était très considérable, elle a fait dissimer plusieurs millions. Comment, pourquoi, par quels moyens ? Personne ne le sait, mais elle ne sait pas elle-même. Je lui ai vu avaler, il y a 13 ans, la fortune d'un charmant garçon et celle d'un vieux monstre en 20 mois. « Il y a 13 ans, dit d'Arthez, mais quel âge a-t-elle donc ?»« Mais vous l'avez donc pas vu, répondit en riant Rastignac. « À table, son fils, le duc de Maufrigneuse, un jeune homme de 18 ans. Or, 18 et 17 font... »« Ah, 36 !» s'écria l'auteur. « Elle les acceptera, dit Rastignac, mais soyez sans inquiétude là-dessus. Elle n'aura jamais que 20 ans pour vous. Vous allez entrer dans le monde le plus fantastique. » « Allez, bonsoir, vous voilà chez vous, » dit le baron en voyant sa voiture entrer rue de Bellefond où demeure Narchez, dans une jolie maison à lui. Nous vous verrons dans la semaine chez Mademoiselle des Touches. » D'Arthez laissa l'amour pénétrer dans son cœur à la manière de notre oncle Toby, sans faire la moindre résistance. Il procéda par l'adoration sans critique, par l'admiration exclusive. La princesse, cette belle créature, une des plus remarquables créations de ce monstrueux Paris où tout est possible, en bien comme en mal, devint, quelque vulgaire que le malheur des temps ait rendu ce mot, l'ange rêvé. Pour bien comprendre la subite transformation de cet illustre auteur, il faudrait savoir tout ce que la solitude et le travail constant laissent d'innocence au cœur, tout ce que l'amour réduit au besoin et devenu pénible auprès d'une femme ignoble, développe de désirs et de fantaisies, excite de regrets et fait naître de sentiments divins dans les plus hautes régions de l'âme. D'Arthez était bien l'enfant, le collégien, que le tact de la princesse avait soudain reconnu. Une illumination presque semblable s'était accomplie chez la belle Diane. Elle avait donc enfin rencontré cet homme supérieur que toutes les femmes désirent, ne fût-ce que pour le jouer. Cette puissance à laquelle elle consente à obéir, ne fût-ce que pour avoir le plaisir de la maîtriser. Elle trouvait enfin les grandeurs de l'intelligence unies à la naïveté du cœur, au neuf de la passion. Puis elle voyait, par un bonheur inouï, toutes ses richesses contenues dans une forme qui lui plaisait. D'Arthez lui semblait beau, peut-être l'était-il. Quoi qu'il arrivât à l'âge grave de l'homme à 38 ans, il conservait une fleur de jeunesse due à la vie sobre et chaste qu'il avait menée, et comme tous les gens de cabinet, comme les hommes d'État, il atteignait à un embonpoint raisonnable. Très jeune, il avait offert une vague ressemblance avec Bonaparte général. Cette ressemblance continuait encore, autant qu'un homme aux yeux noirs, à la chevelure épaisse et brune, peut ressembler à ce souverain aux yeux bleus, aux cheveux châtains. Mais tout ce qu'il y eut jadis d'ambition ardente et noble dans les yeux de D'Arthez avait été comme attendri par le succès. Les pensées dont son front était gros avaient fleuri, les lignes creuses de sa figure étaient devenues pleines. Le bien-être répandait des teintes dorées là où, dans sa jeunesse, la misère avait mélangé les tons jaunes et tempéraments dont les forces se bandent pour soutenir les luttes écrasantes et continues. Si vous observez avec soin les belles figures des philosophes antiques, vous y apercevrez toujours les déviations du type parfait de la figure humaine auquel chaque physionomie doit son originalité, rectifiée par l'habitude de la méditation, par le calme constant nécessaire aux travaux intellectuels. Les visages les plus tourmentés, comme celui de Socrate, deviennent à la longue d'une sérénité presque divine. À cette noble simplicité qui décorait la tête impériale d'Arthès, joignait une expression naïve, le naturel des enfants et une bienveillance touchante. Il n'avait pas cette politesse toujours empreinte de fausseté par laquelle, dans ce monde, les personnes les mieux élevées et les plus aimables jouent les qualités qui souvent leur manquent et qui laissent blessés ceux qui se reconnaissent dupés. Il pouvait faillir à quelque loi mondaine par suite de son isolement, mais comme il ne choquait jamais, ce parfum de sauvagerie rendait encore plus gracieuse l'affabilité particulière aux hommes d'un grand talent qui savent déposer leur supériorité chez eux pour se mettre au niveau social, pour, à la façon d'Henri IV, prêter leur dos aux enfants et leur esprit aux niais. En revenant chez elle, la princesse ne discuta pas plus avec elle-même que D'Arthez ne se défendit contre le charme qu'elle lui avait jeté. Tout était dit pour elle, elle l'aimait avec sa science et avec son ignorance. Si elle s'interrogea, ce fut pour se demander si elle méritait un si grand bonheur et ce qu'elle avait fait au ciel pour qu'il lui envoyât un pareil ange. Elle voulut être digne de cet amour, le perpétuer, se l'approprier à jamais et finir doucement sa vie de jolie femme dans le paradis qu'elle entrevoyait. Quant à la résistance à se chicaner, à coqueter, oh, n'y pensa même pas. Elle pensait à bien autre chose. Elle avait compris la grandeur des gens de génie. Elle avait deviné qu'ils ne se soumettent pas les femmes d'élite aux lois ordinaires. Aussi, par un de ces aperçus rapides, particuliers à ces grands esprits féminins, s'était-elle promis d'être faible au premier désir? D'après la connaissance qu'elle avait prise à une seule entrevue du caractère de d'Arthez, elle avait soupçonné que ce désir ne serait pas assez tôt exprimé pour ne pas lui laisser le temps de faire ce qu'elle voulait, ce qu'elle devait être aux yeux de cet amant sublime. Ici commence l'une de ces comédies inconnues jouées dans le fort intérieur de la conscience entre deux êtres dont l'un sera la dupe de l'autre et qui recule les bornes de la perversité, un de ces drames noirs et comiques auprès desquels le drame de Tartuffe est une vétille, mais qui ne sont point du domaine scénique et qui, pour que tout en soit extraordinaire, sont naturels, consommables et justifiés par la nécessité. Un drame horrible qu'il faudrait nommer l'envers du vice. La princesse commença par envoyer chercher les œuvres de d'Arthez. Elle n'en avait pas lu le premier mot. Et néanmoins, elle avait soutenu 20 minutes de discussions élogieuses avec lui sans quiproquo. Elle lut tout. Puis elle voulut comparer ses livres à ce que la littérature contemporaine avait produit de meilleur. Elle avait une indigestion d'esprit le jour où d'Arthez vint la voir. Attendant cette visite, tous les jours, elle avait fait une toilette de l'ordre supérieur, une de ces toilettes qui expriment une idée et la font accepter par les yeux, sans qu'on sache ni comment ni pourquoi. Elle offrit au regard une harmonieuse combinaison de couleurs grises, une sorte de demi-deuil, une grâce pleine d'abandon, le vêtement d'une femme qui ne tenait plus à la vie que par quelque sens naturel, son enfant peut-être, et qui s'y ennuyait. Elle attestait un élégant dégoût qui n'a cependant pas jusqu'au suicide. Elle achevait son temps dans le bagne terrestre. Elle reçut d'Arthez en femme qui l'attendait, et comme s'il était déjà venu 100 fois chez elle, elle lui fit l'honneur de le traiter comme une vieille connaissance. Elle le mit à l'aise par un seul geste, en lui montrant une causeuse pour qu'il s'assît, pendant qu'elle achevait une lettre commencée. La conversation s'engagea de la manière la plus vulgaire. Le temps, le ministère, la maladie de Marsay, les espérances de la légitimité. D'Arthez était absolutiste. La princesse ne pouvait ignorer les opinions d'un homme assis à la chambre parmi les 15 ou 20 personnes qui représentent le parti légitimiste. Elle trouva moyen de lui raconter comment elle avait joué de Marsay, puis par une transition que lui fournit le dévouement du prince de Calignan à la famille royale et à madame, elle amena l'attention de d'Arthez sur le prince. Il a du moins pour lui d'aimer ses maîtres et de leur être dévoué, dit-elle. Son caractère public me console de toutes les souffrances que m'a causées son caractère privé. Car, reprit-elle en laissant habilement de côté le prince, n'avez-vous pas remarqué, vous qui savez tout, que les hommes ont deux caractères, Ils en ont un pour leur intérieur, pour leur femme, pour leur vie secrète, et qui est le vrai. Là, plus de masque, plus de dissimulation. Ils ne se donnent pas la peine de feindre. Ils sont ce qu'ils sont, et sont souvent horribles. Puis le monde, les autres, les salons, la cour, le souverain, la politique, les voient grands, nobles, généreux, en costume brodé de vertu, parés de beau langage, plein d'exquises qualités. Ah, quelle horrible plaisanterie! Et l'on s'étonne quelquefois du sourire de certaines femmes, de leur air de supériorité avec leur mari, de leur indifférence. Elle laissa tomber sa main le long du bras de son fauteuil, sans achever, mais ce geste complétait admirablement son discours. Comme elle vit d'Arthez occupée d'examiner sa taille flexible, si bien pliée au fond de son moelleux fauteuil, occupée des jeux de sa robe et d'une jolie petite froissure qui badinait sur le buste, un de ces hardiesses de toilette qui ne font qu'un cotail, assez mince pour ne pouvoir jamais rien perdre, elle reprit l'ordre de ses pensées comme si elle parlait à elle-même. Je ne continue pas. Vous avez fini, vous autres écrivains, par rendre bien ridicules les femmes qui se prétendent méconnues, qui sont mal mariées et qui se font dramatiques, intéressantes, ce qui me semble être du dernier bourgeois. On plie et tout est dit, ou l'on résiste et l'on s'amuse. Dans les deux cas, on doit se taire. Il est vrai que je n'ai su ni tout à fait plier, ni tout à fait résister, mais peut-être était-ce une raison encore plus grave de garder le silence. Quelle sottise aux femmes de se plaindre! Si elles n'ont pas été les plus fortes, elles ont manqué d'esprit, de tact, de finesse. Elles méritent leur sort. Ne sont-elles pas les reines en France? Elles se jouent de vous comme elles veulent, quand elles veulent et autant qu'elles le veulent. Elle fit danser sa cassolette par un mouvement merveilleux d'impertinence féminine et de gaieté railleuse. J'ai souvent entendu de misérables petites espèces regretter d'être femmes, vouloir être hommes. Je les ai toujours regardées en pitié, dit-elle en continuant. Si j'avais à opter, je préférais encore être femme. Le beau plaisir de devoir ses triomphes à la force, à toutes les puissances que vous donnent les lois faites par vous. Mais quand vous nous voyons à nos pieds, disant et faisant des sottises, n'est-ce donc pas un enivrant bonheur que de sentir en soi la faiblesse qui triomphe? Quand nous réussissons, nous devons donc garder le silence sous peine de perdre notre empire. Battues, les femmes doivent encore se taire par fierté. Le silence de l'esclave épouvante le maître. Ce caquetage fut sifflé d'une voix si doucement moqueuse, si mignonne, avec des mouvements de tête si coquets, car d'Arthez, à qui ce genre de femme était totalement inconnu, restait exactement comme la perdrix charmée par le chien de chasse. Je vous en prie, madame, dit-il enfin. Expliquez-moi comment un homme a pu vous faire souffrir. Et soyez sûr que là où toutes les femmes seraient vulgaires, vous seriez distingué quand même, vous n'auriez pas une manière de dire les choses qui rendrait intéressant un livre de cuisine. Ah, vous allez vite en amitié, dit-elle d'un ton de voix grave qui rendit d'Arthur sérieux et inquiet. La conversation changea, l'heure avançait. Le pauvre homme de génie s'en alla, contrit d'avoir paru curieux, d'avoir blessé ce cœur et croyant que cette femme avait étrangement souffert. Elle avait passé sa vie à s'amuser, Elle était un vrai don, jouant femelle. À cette différence près que ce n'est pas à souper qu'elle eût invité la statue de pierre. Et certes, elle aurait eu raison de la statue.